行。Plusieurs personnes m'ont demandé depuis quelque temps quoi faire, comment comment être, comment faire. Avec ce qu'on ressent chaque jour. Avec la montée de des actions et des paroles de Trump de plus en plus farfelues. Et ce n'est pas les Américains qui m'ont demandé ça. Et je sais que j'ai les mêmes questions. Et depuis quelques jours, j'essaie de quelqu'un m'a envoyé une citation de Norman Fisher. Qui venait de son livre que je suis en train de lire d'ailleurs. Je crois que le livre s'appelle Teachings in Compassion, un truc comme ça. Et c'est un commentaire d'un enseignement tibétain sur la compassion. Et cette citation vient de là. Où ce livre a été écrit il y a quelques années, donc ça n'a rien à voir dans les détails précis de cette situation dans laquelle on est, mais où c'est dit, il dit, quand les temps sont difficiles, quand on se confronte à des situations difficiles, quelque chose du genre. C'est vraiment là où on a besoin d'amour et de compassion, ou quelque chose comme ça. Je ne me souviens pas exactement la citation. Et quelqu'un d'autre m'a dit que il a vu quelque part que quelqu'un avait demandé au Dalai Lama ce qu'il pensait de Trump. Et le Dalai Lama a dit ce que je ne m'étonne pas du tout. Give him time. Laissez-lui le temps. Je ne sais pas à quel moment le Dalai Lama a dit ça, ni à quel moment la question est posée. Et donc depuis quelques jours, enfin, c'est même pas depuis quelques jours, c'est depuis un certain temps. Je ne sais pas comment. C'est quelque chose. C'est un work in progress. Je dirais que je suis en train d'expérimenter quelque chose et donc j'essaie maintenant ce soir de dire ce que c'est. Bien que je ne sais pas exactement moi-même. Mais. L'autre jour, il y avait ces énormes manifestations partout dans le monde, y compris à Paris. Et je n'ai pas pu participer parce qu'on avait une retraite ce jour-là. Et donc, j'ai regardé beaucoup, j'ai lu beaucoup, j'ai regardé les vidéos après, les discours, etc. Et une des femmes qui a parlé à Washington, une des grandes féministes américaines, a dit « Regardez-moi ça, devant cette foule immense, plusieurs centaines de millions de gens, et ce n'était pas que des femmes, là à Washington. Regardez-moi ça. Vous êtes le... On dirait, enfin, elle disait en anglais, the upside. You are the upside of the downside. Donc, downside étant le... Bon, c'est pas comme pile ou face, mais un jugement. Quelque chose qui est bas, le côté sombre et le côté lumineux. Et... Il y a quelque chose de cet ordre-là. Ce qui était phénoménal dans toute cette manifestation mondiale, et c'est dû en partie parce que c'était organisé par les femmes, c'était tellement inclusive. Il y avait toutes sortes de gens, tout âge, toute race, tout sexe, toute préférence sexuelle, tout un tas de différentes causes qui étaient mises ensemble, complètement pacifiques, sans organisation vraiment. C'était juste, bah, on va se retrouver à telle ou telle heure, c'est tout. Et on a évoqué à maintes reprises des gens qui parlaient sur les affiches, etc., l'amour. Ce qui est incroyable dans une manifestation comme ça. D'habitude, c'est les slogans contre ceci ou pour cela, très partisans, il faut vraiment être clair ce que c'est les demandes. C'est des trucs essentiels. Hein. Si on veut vraiment transmettre un message, il faut être clair sur ce message. Mais grosso modo, le message qui était transmis samedi, c'était l'amour. Et c'est extraordinaire. En réponse à ce discours, cette façon d'aborder le monde, enfin d'aborder l'Amérique d'abord, mais en voyant l'Amérique comme étant premier, fermé, en prenant pas compte le reste du monde, ça c'est une vue du monde. À partir de ça, on a eu cette autre chose qui s'est manifestée. Et moi je sais, c'est le s'il y a des fruits de ma pratique, une partie des fruits de ma pratique, c'est que je sais par expérience que j'ai une expérience intime de la dualité et de la transcendance de la dualité. Je sais qu'il y a toujours deux côtés. Bon, il y a multiples côtés, mais je sais qu'il y a jour et nuit. Je sais. Je sais qu'il y a petit et grand. Je le sais. Je sais que c'est des termes relatifs, mais c'est mon expérience intime de tout, de toute chose. C'est ce qui est, c'est un élément fondamental de la réalité de toute chose. C'est cette dualité. Et sachant ça, ça nous permet, ça me permet, ça ouvre un espace autour des choses. Parce que c'est le contraire de ce qu'on puisse penser, on pourrait penser. On pourrait penser que comme c'est noir ou blanc, ça l'enferme. Mais le fait d'inclure les deux et d'avoir cette expérience intime de ça, ça ouvre la perspective. Et ce n'est pas que blanc. Ce n'est pas que noir. Ce n'est pas que le bas, il y a le haut. Mais c'est les termes relatifs, ça ne veut pas dire forcément qu'on est bien et mal. Et ça ouvre le perspective à toutes les nuances aussi. Parce que ce n'est pas juste un contraste noir et blanc. Il y a tout un tas de nuances qui s'ouvrent. C'est con. On aborde des choses comme ça. Donc, j'essaie de rester avec cette situation parce que, dans un premier temps, j'essayais de ne pas y penser. De ne pas... C'était tellement douloureux et tellement... ça donnait naissance à tellement d'émotions, tellement fortes, la colère, l'injustice, la frustration, la rage, tout ce qu'on peut imaginer, la tristesse, des jugements très forts, que je ne voulais pas y penser. Et donc c'était une stratégie de ne pas y penser. Ça n'a pas duré très longtemps parce que je sais que c'est pas, il ne s'agit pas de ça. Et que ça va juste, pour moi-même et pour les autres et pour tout le reste, va engendrer plus de souffrance que si je me laisse vivre ce qui se passe. Il y a la tendance aussi de se faire embarquer et d'être complètement submergé par toutes ces émotions négatives, entre guillemets, négatives qu'on vit. D'être complètement submergé, de parler de ça tout le temps, et de c'est une sorte de complaisance dans ma misère, dans ma colère, dans mon sentiment d'injustice, de furieux tout le temps, etc. Ou je vois le danger de le contraire de ne pas vouloir regarder, c'est de regarder tout le temps, de lire toutes les informations, de suivre toutes les chats, de regarder chaque chose qu'il dit, de chaque réponse, et de chercher différentes sources et de guetter le moindre outrage qui est émis, etc. C'est pas ça non plus. Là, on va vraiment. Je sais, encore une fois, par expérience intime, que ça aussi, ça va juste créer plus de souffrance si je fais ça. Qu'il ne s'agit pas de ça non plus. J'applique tout ça à cette situation avec Trump, mais ça s'applique à toutes différentes situations qu'on peut, rencontrer. J'ai une expérience aujourd'hui où j'allais au musée et c'était pour voir une expo Picasso Giacometti. J'y vais parce que Giacometti m'intéresse, Picasso pas tellement. Et ça c'est très basique comme explication. Je peux aller même dans les profondeurs de la chose. Giacometti, j'adore. Picasso, j'aime pas du tout. Enfin, je peux aller dans ces choses extrêmes comme ça. Et donc, je me retrouvais attrapée par ces choses à ne pas vouloir regarder les choses de Picasso. Ou de les juger, ah oui, mais c'est quand même pas. C'est pas aussi profond que Giacometti, quand même. C'est un peu superficiel. Le mec, il est plein de lui-même. Enfin, tout un tas de jugements. Il y avait beaucoup de monde, donc il fallait choisir ce qu'on pouvait regarder. Non, et non. Je vais pas regarder les trucs de Picasso. Mais je me voyais dans ce truc-là. Donc j'essayais de m'ouvrir, de mettre à côté mes jugements. Je peux faire ça avec Trump aussi, de mettre à côté mes jugements. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas des jugements, mais juste ne pas me laisser être aveuglée par ça. Ouvrir la possibilité que est-ce que je peux regarder ce dessin de Picasso comme si je le vois pour la première fois? Souvent, je le voyais pour la première fois, mais pas tant que ça. Il n'y avait pas vraiment des choses nouvelles, les Picasso, là. Et l'aborder comme si c'est nouveau.
Et comme si ce n'était pas Picasso, peut-être aussi.
Oui, ça implique oublier que c'est... Mais c'est difficile parce que c'est très reconnaissable, Picasso. Ouais. Surtout vis-à-vis du japonais, c'est très reconnaissable. Mais bon, oublions ce qui est Picasso dans ma tête. Mmh. C'est ça. Ouais. Voilà. Et oublions ce que c'est Trump dans ma tête. Oubliez mes jugements, mais il est vulgaire. Oubliez mes jugements, mais cette coupe de cheveux, c'est immonde. Oubliez le fait qu'il a les petites mains. Enfin, je veux dire, oubliez toutes ces choses que je veux, les jugements, etc. Et juste, ok. Qu'est-ce que c'est cette situation? Qu'est-ce qui se passe? Et ça ouvre, ça ça soulage d'une certaine façon. Je ne le fais pas pour me soulager. Je le fais parce que je sais ce que je suis en train de faire auparavant. Est très nocif. Je sais que ça, je suis bloquée, je suis accrochée à quelque chose, je me fais du mal, je fais mal aux autres parce que je ne vois pas vraiment ce qui est, je ferme les perspectives, etc. Je ne suis pas allée jusqu'au point que je crois que j'ai raconté la semaine dernière que ce que Yves Marco avait mis sur son hôtel, une des casquettes de Trump. Je ne suis pas allée jusqu'à ce point-là, mais c'est le même esprit. C'est le même esprit de... ok, de quoi il s'agit? Et si... quand je fais ça, je vois les causes et les effets. Donc, je vois que quand moi je suis fixée sur mes jugements, etc., l'effet de ça, c'est que ça crée une tension, ça nourrit ma colère, ça me fait souffrir, je me sens impuissant, etc. Donc ça, c'est une expérience directe de cause et effet, d'action et un effet. De même, je peux élargir ça et je sais que si Trump existe, s'il y a cette situation, tout est interconnecté. Hein. Ça, c'est aussi, j'ai une expérience intime de ça. Tout est interconnecté et donc je sais que si on est là, on s'est retrouvé dans cette situation, ce n'est pas par hasard. Il y a tout un enchaînement d'actions et conséquences qui m'ont amené à ça. Et je dis souvent, enfin j'ai réussi à réduire ça à 3 points, que une société de spectacle, et je dis ça je crois, société où il s'agit de spectacle en permanence, où l'argent est prime et roi, et où toute l'attention est mise sur le matérialisme et l'utilitarisme. Forcément, on va choisir un dirigeant comme ça, parce qu'il incarne ces 3 choses à la perfection. Mais à la merveille, il incarne ces choses. Le spectacle permanent. Tous les jours, on est cloué devant nos écrans de voir quel spectacle il va faire aujourd'hui. C'est le spectacle, mais en permanence. Et toute sa vie, c'était un spectacle. Il était même à la télé-réalité, etc. Donc c'est quelqu'un de spectaculaire. Et on est tous embarqués dans ça. Le spectacle. Si on est là, regardez tout ce qu'il va dire, etc., c'est le spectacle. L'argent. Mais il en a tellement qu'on ne sait même pas combien. Il en perd, il en gagne. Toute son existence tourne autour de ça. Il incarne le rêve de tout le monde, enfin, dans une société où l'argent est roi, de créer son existence autour de l'argent, d'en avoir et d'en vouloir plus. Parce que, évidemment, c'est jamais assez. Et puis le matérialisme de la chose, ben, on n'a que voir le coupe de cheveux. C'est un emblème extraordinaire de matérialisme. N'en parlons pas de ces gratte-ciels, si on a vu des photos de ces appartements. Mais c'est dingue. C'est sidérant.
Ok, entre la coupe de cheveux et le matérialisme.
Ben, quand même, si on est accroché à ce point-là, avoir des cheveux dans telle ou telle position, de telle et telle couleur, quand on en a, je pense qu'il est à moitié chauve en fait, mais il ne veut pas reconnaître ça, il veut donner une image, c'est l'image, il veut donner, il sculpte ses cheveux d'une façon pour créer une image qui est matérialiste. Il n'est pas ça, mais il donne cette impression qu'il est ça. Pour lui, il est identifié avec ça. Et le fait qu'il a des, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il a des cercles, c'est un peu comme un raton laveur, sauf que c'est blanc là autour. Et pendant un temps, je croyais que c'était du maquillage qu'il mettait pour cacher les cernes et les poches. Mais non, j'ai lu que c'est pas ça. C'est qu'il va tous les jours dans le truc de soleil, dans la lampe de soleil, et on met des lunettes blanches, les lunettes ici, pour protéger les yeux, et c'est des marques blanches. Et il ne fait même pas un effort pour les cacher. Parce que c'est probablement. Il est fier de ça, enfin, j'en sais rien. Mais bon, c'est très très matérialiste, dans le sens que tout est matière. Il n'est pas le seul. On est tous pris par ce genre de choses, hein, par nos coupes de cheveux, par nos habits, par rester jeune, pour ne pas avoir des rides, pour teindre les cheveux, pour couper d'une certaine façon. Enfin, statu quo, c'est il faut avoir telle ou telle basket, il faut acheter ses habits ici, il faut avoir telle ou telle voiture. Il faut avoir telle ou telle maison. Il n'est pas le seul. Hein. Mais il est d'une certaine façon le summum. Il représente le summum de ça. Et donc une société qui est tournée vers ces trois choses, évidemment, ils vont choisir un dirigeant comme ça. Et parce que la société... Mais on a parlé de ça la semaine dernière déjà. Je ne veux pas revenir... C'est plutôt ce soir, ce que je voulais essayer de regarder, c'était comment nous, pour répondre aux questions que les gens me demandent en ce moment, comment faire ? Qu'est-ce qu'on fait ? Ils ne me demandent ça pas juste comme ça, c'est dans le contexte de la pratique. Qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Parce que si la pratique est juste rester sur ton coussin et regarder ton nombril, ça sert à rien. Enfin, c'est même pas une histoire de servir, c'est que c'est pas ça la pratique. La pratique n'est pas juste regarder son nombril. C'est pour ça que les gens me demandent cette question. Et c'est pour ça que moi je regarde aussi moi-même ce qui se passe. Et donc, je ne peux pas dire que quand j'étais au musée, que je me suis complètement lâchée, mes préférences, mes idées. Et c'est même pas ça l'idée, le but, entre guillemets. de lâcher mes préférences. J'ai une préférence pour Giacometti plutôt que Picasso. Ok. Et j'essayais de m'ouvrir même à l'idée, parce que j'avais l'idée avant, que les deux n'avaient rien à voir. Ils ont 20 ans de différence d'âge. Picasso avait 20 ans de plus que Giacometti. Ils étaient tous les deux à Paris, mais bon, moi je pensais qu'ils n'avaient rien à voir. Mais je me suis dit, mais pourquoi pas? Regarde, ouvre-toi et regarde. Et je pouvais apprécier chacun, peut-être d'une autre façon que si j'étais juste centrée sur un et j'avais mon idée fixe sur les deux. Alors, quelle est la réponse La réponse du Dalai Lama, donnez-lui le temps. Il y a quelque chose de tellement généreux dans ça, dans cette réponse. Le Dalai Lama sait que ce que d'habitude nous on pense en termes que temps, le temps et avec nos idées de résultats et productivité, etc., c'est très limité. Et souvent, nos dirigeants ont cette idée aussi. Trump, sa première semaine, ses premiers jours étaient mais étouffants. Je fais ci, je fais ça, je fais ci, je fais ça. C'est pas du tout spacieux comme relation à la temps, au temps et à l'espace. Dalai Lama, c'est du temps. Il y a du temps. Parce que c'est vrai. Et quand je reste avec ça, je sais aussi intimement que il y aura d'autres choses, que cette merveilleuse journée du samedi dernier avec toute cette manifestation mondiale, c'est formidable. Ça ne serait jamais été là s'il n'y avait pas Trump. J'ai lu aujourd'hui que l'Union européenne, d'une certaine façon, Trump c'est un cadeau pour l'Union européenne. Parce qu'ils sont menacés maintenant, on est menacés. Avec Poutine d'un côté et les Anglais qui s'en vont de l'autre côté, c'est chaud. Et donc, ils vont être obligés de... Alors, qu'est-ce qu'on veut? Et qu'est-ce qu'on va faire? Ça va nous unifier. On va regarder ce qui nous unifie, qu'est-ce qu'on veut, etc. Peut-être même que Trump, il va pouvoir, malgré lui, même pas, c'est peut-être pas malgré lui, mais peut-être il va véritablement aider tous ces gens qui ont voté pour lui. Peut-être que ça va vraiment se passer comme ça. Peut-être il va créer des emplois. Peut-être leur vie va être meilleure pour tous ces gens. Peut-être, on n'en sait rien. Malheureusement, c'est possible qu'il y aura aussi d'autres vies et d'autres gens qui vont souffrir à cause de ces actions qu'ils prennent. On n'en sait rien. On ne fait jamais rien, en fait. Mais mon expérience, c'est que si j'aborde l'instant avec patience, compassion, amour, gratitude, moi, je ne souffre moins. Je souffre moins. Et j'agis autrement dans la situation. Et donc, je vais causer, pas causer, je vais créer moins de souffrance aussi. Si je peux juste être à l'écoute de ce qui est, j'ai plus de chances de ne pas souffrir moi-même et de ne pas créer souffrance pour l'autre.
Moi, ça me fait penser à une expérience par rapport au jugement de l'autre, ou le fait de ressentir de la haine, peut-être, ou de la colère, ou des trucs négatifs envers d'autres gens. Et je pense que j'ai eu le... Je me disais que c'est pas bien de détester quelqu'un, c'est pas bien de ressentir ces trucs-là. C'est pas bien, il faut éviter de juger. Et du coup, voilà, me dire que... je sais pas trop bien comment le dire, mais... Dire que l'attitude idéale que je devrais avoir envers d'autres gens, c'est de ne pas éprouver de sentiments négatifs envers ces gens-là, de ne pas les juger, etc. Et ça pose pas mal de problèmes parce que du coup je me fais violence en essayant d'étouffer un peu ce qui se passe, quoi, en moi. Et l'autre truc, et en plus de ça, il y a une expérience que j'ai eue à un moment où je me suis dit, mais finalement, où je me suis comme autorisé finalement à juger. Sans le dire, c'était pas. Sans exprimer ou m'autoriser à avoir des émotions négative vis-à-vis d'autres personnes, et sans l'exprimer, mais les autoriser à être là, et vraiment me dire pas du tout ce type, ou j'aime pas du tout cette fille, ou ça me fait sentir ce que ça me fait, et ou alors je suis vraiment pas du tout d'accord avec ce qu'il dit, ou c'est quand je pense stupide ce qu'il dit, et d'autoriser ça à être là, et ben quelque part, je me suis dit, c'est peut-être un peu curieux à dire, mais c'est une forme de respect envers l'autre. C'est ce que ça m'a fait. C'est-à-dire que en autorisant tout ce que je ressentais vis-à-vis de cette personne-là, quelque part, j'autorisais cette personne à être ce qu'elle était. Euh, Et c'est ce qu'elle était qui créait chez moi tout ça, quoi. Mais du coup, en autorisant tout ça quelque part existait en moi, je l'autorisais à être exactement ce qu'elle était. Et je ne lui imposais pas d'être autrement, finalement, et d'être d'une manière qui me plaise. Ouais, et c'est, enfin, ça me fait penser à ça, en fait, un peu, ce que tu disais. Et c'est un peu curieux, peut-être que ça sonne un peu paradoxal, mais c'était un peu l'expérience que ça m'a fait de me dire, finalement, juger, voilà, m'autoriser ses jugements, m'autoriser ses négatifs, c'est finalement, d'une certaine manière, il y a aussi un certain respect de l'autre, quoi. Donc, je sais pas si ça...
Bah, le problème n'est pas de juger, ce n'est pas un problème d'avoir les jugements, c'est de n'avoir que les jugements qui est le problème. C'est que si on se fait aveugler, on voit. Là, dans ce que tu décris, tu juges, parce que tu avais dit de faire violence, oui, il ne s'agit pas de se faire violence et de ne pas. Forcer de ne pas avoir de jugement, c'est pas ça dont il s'agit. Il s'agit de oui, reconnaître ses jugements. Et dans ce que tu décris, apparemment, en te laissant vivre tes jugements, tu étais capable de voir l'autre comme il ou elle est. Le fait de le juger ne va pas changer, quoi qu'il en soit, la personne. Et le fait de ne pas le juger, ça ne va pas le changer non plus. Il est comme il est. Nous, on croit qu'on a la puissance, le pouvoir de changer ou non, mais c'est pas vrai. Mais apparemment, ce que j'entends, c'est que, ok, on a un jugement. C'est ça, quand j'ai dit, bah, ça ne veut pas dire que je ne juge pas Picasso et Jacques Matisse. Mais je n'ai pas que ça. Je m'ouvre à d'autres choses. Et apparemment, c'est ce que tu dis. Quelque chose comme ça. Tu voulais dire quelque chose?
Non.
Non, ok. C'est un peu comme la situation contraire, quand on ne voit que on est attaché à notre jugement positif sur quelqu'un ou quelque chose, on ne va pas voir les ombres. On ne va pas voir le côté sombre, les défauts, les failles. On ne va pas le voir. Si on est fixé, on est attaché à notre. On se force à voir cette personne comme positif uniquement. Et si on peut vraiment. Ok. J'adore cette personne, je trouve que cette personne est géniale, etc. Mais je ne vais pas être accrochée à ça. Alors là, on voit la totalité, on peut voir le reste. Ça ne veut pas dire qu'on va l'aimer, ou le ne pas aimer, ou vice-versa. Mais... Donc c'est peut-être, je m'autorise d'avoir cette opinion, ce jugement, et en même temps, je m'autorise à voir la personne comme il est.
Et ce qui me venait quand tu parlais, c'est que tu disais que tu avais l'impression de plus respecter la personne parce que tu l'as laissé être ce qu'elle était finalement, mais aussi tu te respectais toi. En ayant les pensées que tu avais sur les jugements.
Oui, en les laissant être. Sans se faire violence. Quoi.
Respecter étant en l'occurrence accepter ce qui est chez l'autre et chez soi. Je je suis intéressée de parler de soulagement tout à l'heure. Parce que c'est éviter de combattre des choses qui encombrent, qui prennent toute la place, qui obscurcissent, et c'est aussi accepter sa part, enfin, dans le sens de ce qu'il dit, mais sa part d'ombre, quoi, sa part de grossièreté intérieure, de barbarie intérieure. Moi, je fais l'expérience de ne pas retenir, enfin, je ne pensais pas que ça existait forcément, mais des propos intérieurs qui sont, que je trouve, monstrueux, barbares, grossiers. Et je pense que c'est soulageant. C'est soulageant de regarder que je suis composée de tout et d'arrêter d'essayer de garder ça au fond et de ne pas le laisser surgir. Et du coup, ça prend moins de place, je pense, et que ça libère pour d'autres choses. Ça soulage aussi ça soulage en termes d'énergie, en termes de disponibilité à ce qui est, et puis ça soulage en termes de pas la peine de chercher à. Je ne vais pas dire être parfaite, mais en tout cas à être bien, quoi. À dire que les choses bien, à penser les choses bien. Et ça soulage même de savoir que j'ai ma part animale, enfin, aux animaux, part grossière, tout ça, après tout.
Oui, et. Si on applique ça à la situation avec Trump, je sais qu'il y a un certain nombre de gens qui disent mais je ne comprends pas, je connais personne qui a voté pour lui, qui sont ces gens, c'est les ignorants, c'est les nuls, c'est le peuple.
C'est pas de la confession, hein.
Pas du tout,
ben non.
Et c'est mais de quoi ils peuvent penser, comment ils peuvent voter pour lui, etc. Et si on regarde vraiment ça, ce qu'on est en train de dire, on est en train de tenir un discours exactement comme eux, les gens qu'on est en train de condamner. Et on les condamne pour ce discours, mais on est en train de tenir le même discours. C'est juste que nous, on aime rouge et eux, ils aiment bleu. Enfin, c'est le même discours de séparation, d'attachement. Et de regarder la souffrance qui est exprimée, mais de quoi il s'agit, cette souffrance.
Une des choses que j'ai entendues, c'est que Trump avait su écouter, enfin entendre, pas s'il avait su écouter, mais entendre la voix de tous ceux qui ont été pour eux.
C'est ce qui est présenté.
Oui.
Et d'une certaine façon, c'est vrai.
Ou en tout cas, les personnes s'étaient senties entendues.
Voilà. Voilà.
Alors qu'Hillary Clinton avait été dans son.
C'est l'image qu'on va, on va créer quelque chose de grossier, ou c'est ça qui s'est passé. Mais en fait, je pense, comme tout, c'est beaucoup plus subtil.
Bien sûr.
On peut dire que il y avait deux discours qui étaient prononcés et deux réponses. À chaque discours, il y avait deux réponses. Il y avait multiples discours et multiples réponses. Mais il y avait deux discours et à chaque discours, il y avait un oui et un non. Juste pour simplifier les choses.
C'est pas la première fois que ça arrive dans l'histoire ou que des êtres de sa trompe, agissent et donc sont élus. Parce que c'est des tribuns, parce que. Voilà. Donc ça se répète. Ils ont dit aussi autre chose qui était que c'était une question, hein, est-ce que le fait d'avoir eu un président noir pendant deux mandats, enfin déjà un, mais même deux, prépare.
Bien sûr, c'est le résultat.
Ouais.
Ça fait partie de le résultat. Bien sûr, oui, oui, tout à fait. Une certaine rage des gens qui se sentaient pas du tout faire partie de tout ce qui s'est passé depuis 8 ans. Que ce soit pour les raisons raciales, économiques, intellectuelles, culturelles. Oui, et c'est ça que, qui est, quand on dit que Trump a entendu ça, je ne sais pas si c'est tellement qu'il a entendu ça, mais qu'il a incarné ça. Tout ce qui est, que ces gens exprimaient, il incarne ça. Et donc, c'est ça qui s'est passé. Et bon, c'est beaucoup plus complexe que ça aussi, parce
oui.
qu'il y a le cupidité et la soif de pouvoir des gens qui ont soutenu Trump parce qu'ils ont voyé la victoire venir et donc ils voulaient avoir pouvoir avec lui.
Un modèle.
Quoi ?
Un modèle aussi. Puisque lui a réussi, on pourrait peut-être aussi.
Avec oui.
de l'argent, ça existe, c'est possible.
Oui. Mais je parle des gens qui sont. Mais je pense que ça se passe comme ça toujours dans les mouvements de foule. C'est qu'il y a des gens qui sont embarqués. On a vu ça dans l'Allemagne nazie. Il y avait des gens, comment, et on étudie ça toujours, comment les gens ordinaires, entre guillemets, bien, se sont participés à quelque chose de monstrueux. Bah, c'est la même chose qui se passe avec Trump, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui, des gens complètement bien, je parle des politiques, des dirigeants, etc., qui n'ont jamais tenu un discours pareil, mais maintenant sont associés avec lui parce qu'il veut le pouvoir. Et là, ils vont avoir des comptes à rendre. On a vu la même chose avec les collabos en France, etc. Ils vont avoir des comptes à rendre, à un moment ou à un autre. Donc, c'est, oui, mais une partie de l'explication, c'est absolument parce qu'il y avait ce président noir pendant 8 ans, tout à fait. D'où l'importance des photos montrant que les foules pour Obama étaient beaucoup plus importantes que les foules pour Trump. Pourquoi ils s'en fichent, Trump, de ça? Pourquoi? Bah, et c'est ses soutiens aussi, c'est très important. Il n'a pas qu'un nègre à attirer beaucoup plus de monde que lui. Je ne devrais pas dire ça, mais c'est ça, dans leur esprit. En plus, bon, il y a le phallus dans tout ça aussi, hein. Il faut avoir le plus grand, quand même. Et Trump avec ses gratte-ciel et le fait qu'il a les petites mains et tout le monde fait le remarquer, etc. De quoi il s'agit là, quand même. Donc c'est très complexe, mais ça ne change pas le fait que nous, on peut avoir une démarche. Autre. C'est ce que je suis en train d'expérimenter depuis quelques jours. Bon, quelle heure on a le temps? Quoi?
Moins 10.
Ok, bon, c'est bien, ça va être là.